BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé. Qui ne connaît pas la citation « Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi ». Eh bien aujourd'hui, Lagardère, c'est Benoît Bourg, fondateur de Okoya, qui va vers les patients isolés avec ses médicobus. Il est bien sûr sur le plateau de Check-up santé. Mon deuxième invité est un pharmacien visionnaire, inventeur, toujours prêt à porter plus haut sa profession. Lucien Benatan dirige le réseau Acte Pharmacie qu'il a créé. Et pour la petite histoire, il a été le premier partenaire de Check-up Santé il y a 12 ans. Et pour cela, je ne le remercierai jamais assez. Enfin, pour finir en beauté, dans tous les sens du terme, j'ai le plaisir d'accueillir Alix Bornon, qui a mis son diabète au service des autres, diabétiques ou pas, et qui sort un livre de recettes, 52 plaisirs de recettes sucrées à indice glycémique bas, distribué dans nos pharmacies. Check-up santé, c'est parti. Benoît Bourg, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes médecin généraliste, vous êtes urgentiste, acupuncteur aussi. Et surtout, fondateur de Okoya, que vous avez fondé en 2022.
Exactement.
Fondé, cofondé ?
Cofondé avec deux ingénieurs spécialisés en e-santé et en télémédecine, Gustavo Acosta et Clément Pallière.
Alors, comment vous est venue cette idée de cette médecine mobile qui va au secours des déserts médicaux ?
Dans mon exercice quotidien, j'ai vu les difficultés d'accès aux soins. Et effectivement, les patients, notamment en ruralité, avaient de grandes difficultés pour accéder soit à un médecin traitant, ils faisaient des longs kilomètres pour aller aux urgences. Et pour moi, vu de la situation aujourd'hui qui est assez catastrophique, il fallait partir de cette idée fondatrice qui est d'aller au plus près des patients, faire le dernier kilomètre de la santé.
Donc ce sont des solutions qui sont adaptées d'ailleurs aux besoins des patients, mais aussi aux besoins des professionnels de santé, c'est bien ça ?
Complètement. Donc on a créé des médicobus et on a poussé le concept assez loin, puisque à l'intérieur, on a créé toute une infrastructure technologique de télésanté. Donc on peut mettre un médecin dans ces médicobus, mais aujourd'hui...
On va y revenir. Donc est-ce que vous n'avez pas subi certains combats d'arrière-garde de certaines catégories professionnelles ?
Non, pas aujourd'hui, parce que le besoin est immense, les fractures sanitaires...
C'est vrai que quand on crée quelque chose d'original, on a souvent... refus avant un
on nous a dit que c'était parfois trop innovant, parfois effectivement un peu avant-gardiste. Mais aujourd'hui, on a voulu associer différentes solutions et aller vraiment vers les patients d'une solution originale. Et aujourd'hui, on n'a pas de frein majeur.
Oui.
Et on est plutôt très bien accueillis à la fois par les patients et les professionnels de santé.
D'accord, donc avec l'accord et en plus avec le soutien comme le Conseil de l'Ordre, comme le...
Aujourd'hui, au vu des difficultés d'accès aux soins des déserts médicaux, effectivement, il y a une circulaire de l'Ordre qui dit qu'effectivement, cette médecine mobile autrefois interdite peut être envisagée dans ces secteurs-là.
Premier médecin nomade ? Non. Alors, vous proposez donc des médicobus. Les médicobus sont des camions, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, on s'est spécialisé là-dedans. Donc, ce sont des petits camions aménagés en cabinets médicaux, équipés d'un ensemble d'instruments médicaux, de dispositifs médicaux et d'une infrastructure aussi logicielle. Et donc, on a poussé ce concept très loin. Ce n'est pas juste un camping-car aménagé. On a vraiment l'impression d'être dans un cabinet.
Et il fait moins que 3,5 tonnes.
Et ils font moins de 3,5 tonnes parce que l'idée, c'est d'aller dans tous les petits villages, d'aller vraiment au plus près du patient, n'importe où.
Et pas besoin d'un permis spécial.
Exactement, c'est un permis B. Donc une infirmière peut le conduire ou n'importe qui.
Donc à l'intérieur, pas mal de matériel médical.
Exactement. Donc nous, nos médicobus, c'est des médicobus...
Parfois de haut niveau.
Exactement, c'est des médicobus multispécialités. Mm-hmm. Mais on peut faire aussi de la spécialité, de la pneumologie, de la cardiologie. Là, on va faire un mammobus de petite taille aussi, donc on va faire de la radiologie. Mmh. Et donc l'idée, c'est vraiment que le patient se sente...
Un mammobus qui pourra faire des mammographies, c'est ça ?
Exactement.
Dépistage du cancer.
Tout à fait, là ce sera prêt pour octobre rose et on va créer le plus petit mammobus aujourd'hui.
Donc vous avez aussi du matériel pour faire de la téléconsultation à l'intérieur du...
Exactement. Alors aujourd'hui,
les médicobus.
Tout à fait, ces médicobus permettent de faire des consultations, mais aussi des dépistages, donc de la prévention. Mm-hmm. Et donc en fait, on a intégré nous toute une infrastructure, une station de télésanté. Donc c'est un ensemble de dispositifs médicaux qui sont dans cette station de télésanté, et c'est l'infirmière qui en fait les yeux et les mains du médecin qui manipule le stéthoscope, l'otoscope, et le patient en fait, le médecin est à distance en téléconsultation, donc c'est la téléconsultation assistée et augmentée.
D'accord, donc c'est principalement donc une infirmière qui reste dans ce médicobus.
Voilà, c'est ça. Ça peut être un médecin, mais aujourd'hui, effectivement, l'enjeu, c'est de trouver des médecins.
Ouais.
Et donc, nous, on veut gagner du temps médical avec cette solution. Donc, c'est en fait un infirmier, une infirmière qui, auprès du patient, on veut conserver ce côté humain, mais mettre la technologie vraiment au service de la santé.
D'accord, il peut y avoir aussi quand même des médecins, vous dites, des professionnels de santé.
Oui, c'est tout à fait possible.
Quel genre, sous forme de vacation, sous forme de...
Oui, alors les médecins, ce sont... Déjà, nous, ça reste surtout aux jeunes médecins ou aux médecins retraités. Mm-hmm. En fait, ils ont du temps résiduel et ils accordent 2 heures, 3 heures pour vraiment répondre à ces cabinets mobiles.
Oui, et ils facturent des honoraires comme s'ils étaient dans un cabinet médical.
Exactement, en fait, on est dans le respect du parcours de soins. Nous, on travaille particulièrement notamment avec les CPTS. Mm-hmm. On est toujours dans un cadre territorial aussi. Pour la téléconsultation, on travaille notamment avec la seule organisation territoriale de télémédecine en France, c'est Omedis. Mm-hmm. Donc, on veut être dans le respect réglementaire. Et donc, le patient est remboursé comme une consultation classique dans le respect du parcours de soins.
Alors, où vous déplacez-vous? Parce qu'en fait, il faut que les patients soient informés quand même. Qui informe ces patients que votre médicobus va arriver dans leur...
Alors, tout dépend par qui est utilisé. Ça peut être un outil, en fait, pour une organisation de santé. Donc, elle fait son information. Ça peut être aussi un vrai service d'accès aux soins pour les collectivités. Dans ce cas-là, en fait, il y a toute une communication qui est faite. Dans tel jour, le médicobus sera dans ce village, tel jour sera dans notre village.
La mairie, par exemple, qui informe.
Exactement. La mairie peut répondre au téléphone. On peut avoir un secrétaire téléphonique ou prise de rendez-vous en ligne. Il faut imaginer, c'est comme un cabinet médical, sauf qu'il est itinérant, donc on a des tournées médicales.
Oui. Vous disiez aussi que vous faisiez pas mal de dépistage, parce que c'est bien de traiter, mais d'utiliser justement votre procédé pour faire du dépistage.
Tout à fait, parce que pour moi, ce n'est pas uniquement de la médecine clinique, il faut vraiment pousser la prévention au plus près des patients. Mmh. Donc on fait des dépistages avec le même outil, et donc en fait, l'infirmier utilise les dispositifs, et en fait, c'est de la télé-expertise asynchrone. Donc on va voir tous les résultats, par exemple, cardiologique ou alors analyse des grains de beauté, et c'est le dermatologue ou le spécialiste qui va rendre un rapport en fait au patient, et nous on va pousser aussi de l'information, de la prévention au patient.
Donc Medicobus qui sont bourrés de technologies pour...
Exactement, ce sont des bijoux technologiques mais toujours au service d'une organisation médicale. Mm-hmm.
Ça peut être l'extension par exemple d'un hôpital qui vous a acheté peut-être un Medicobus et qui...
Exactement, pour nous demain c'est l'extension du cabinet médical certes, mais demain c'est l'extension de la maison de santé, de l'hôpital, de la clinique, et aujourd'hui on a des hôpitaux qui nous commandent effectivement ces Medicobus.
D'accord, ça coûte cher, non, un Medicobus,
j'imagine. Ça coûte assez cher, effectivement. Alors, on a différents modèles. Hein. Ça peut aussi être une location, tout simplement. Ça peut être de l'investissement, voire du leasing. Et après, on peut, nous, simplement porter un modèle d'accès aux soins, où là, c'est un coût à la journée, finalement.
Mm-hmm. Combien de Medicobus pour l'instant?
Alors, aujourd'hui, on en a 3. Ouais. Et en fin d'année, on en aura 10. Et puis, on est en plein déploiement aujourd'hui.
Et qui se baladent où, ces 3 Medicobus?
Alors, aujourd'hui, c'est région Grand Est, en Nouvelle-Aquitaine, spécifiquement Lot-et-Garonne, mm-hmm. et puis aussi en Île-de-France, dans l'Essonne.
Pas de PV, non? Pas de contravention?
Non, pas aujourd'hui.
Ouais, vous êtes protégé encore un petit peu, non?
J'espère qu'on n'en aura pas, vu le besoin qu'elle nous répond.
Oui. Alors, donc vous disiez 3 Medicobus, à la fin de l'année, peut-être 10, c'est bien ça?
Exactement.
Voire plus.
Oui, surtout que nous, aujourd'hui, on fait des Medicobus de médecine générale, c'est le besoin le plus criant aujourd'hui. Hein. Il y a 87% de la population qui vit dans un désert médical, mais on peut aussi faire des Medicobus de spécialité. Donc là, on a des demandes sur de la pneumologie aujourd'hui, on a des demandes sur d'autres spécialités, donc effectivement, on veut avoir un ensemble de Medicobus.
J'imagine que vous avez commencé par lever des fonds, non?
Oui, alors on a eu besoin de lever des fonds au départ, donc on a fait ce qu'on appelle une levée de fonds en Love Money. Donc Love Money, ce sont la famille, les amis, les collègues qui mettent de l'argent, donc on a levé 300 000 euros.
Oui, donc ils ont bien cru en vous alors.
Il y a eu plus de 40 personnes qui nous ont aidés au départ. On a eu des aides de la BPI aussi. Ouais. Et puis là, on est en plein déploiement. Donc, évidemment, le besoin en fonds est important pour arriver à pérenniser ce nouveau modèle.
Alors, justement, quel est votre business model, votre business économique?
Donc, on a vraiment deux business models. Le premier, il faut voir le Medicobus comme un outil au service des professionnels de santé, des CPTS. Donc là, soit on vend le Medicobus, soit on loue. Et ça intègre à la fois le matériel, l'environnement logiciel, le pilotage des tournées, la formation des professionnels de santé. Ou alors, le deuxième business model, en fait, c'est propose un service d'accès aux soins ou de dépistage à la journée, pour faire telle action de dépistage ou pour mailler un territoire sur plusieurs mois pour de la médecine générale. Là, c'est un coût à la journée.
Mmh. Donc, pour finir, comment voyez-vous les 5 prochaines années?
Alors,
plus
nous,
de Medicobus?
Ce qu'on veut créer, en fait, c'est un nouveau modèle de santé de proximité. Pour nous, le Medicobus doit s'insérer dans une organisation globale de santé en étant l'extension d'une maison de santé. On a une solution complémentaire, mais qui fait sens pour tout le monde, pour les professionnels de santé, mais aussi pour les patients. Et donc oui, on espère évidemment pouvoir développer notre solution partout en France. Donc là, c'est notre enjeu dès cette année de se déployer dans tout le territoire.
Eh bien, merci beaucoup Benoît Bourg. Franchement, bravo pour ce que vous faites. On va à présent accueillir Lucien Benatan, pharmacien et fondateur de Acte Pharmacie.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Lucien Benatan, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous revoir dans Check-up Santé. Je dois dire que vous avez été, je l'ai dit en intro, quasiment le premier invité de Check-up Santé il y a 12 ans, et surtout le premier qui est cru en mon émission en étant le premier partenaire. Et ça, je vous en serai gré jusqu'à la fin de mon existence. Alors, le monde de la pharmacie, vous le connaissez par cœur, hein, oui. Car vous êtes d'une part pharmacien, Vous avez longtemps dirigé un grand groupe de pharmacies et aujourd'hui donc, vous dirigez Acte Pharmacie, réseau de pharmaciens. En fait, vous vous arrêtez jamais, quoi.
Non, je veux pas m'arrêter, Fabien, surtout.
Normal, elle a 35 ans.
35 ouais. ans, tout jeune, presque ouais. encore. Non, ce que je constate aujourd'hui.
Vous êtes toujours
Fabien,
cette foi, vous êtes toujours cette
oui,
énergie en vous.
Je suis pharmacien et je veux défendre les pharmaciens et je veux essayer ouais. de promouvoir le rôle du pharmacien dans le système de santé. Ouais. Et je vois qu'il y a plusieurs typologies de groupements et ça me plaît pas toujours. Vous avez des groupements aujourd'hui qui sont détenus par des fonds, donc on est dans la rentabilité immédiate.
On va en reparler. Alors justement, avant de parler d'actes pharmacie, parlons un petit peu de la profession de pharmacien. Et quand on parle de pharmacien, on parle avant tout des étudiants. Oui. Et comment expliquez-vous que les jeunes soient moins attirés par ces études de pharmacie?
C'est un fait. D'ailleurs, nous, aujourd'hui, on est en manque de personnel. Hein.
Ouais. C'est un petit peu amélioré cette année par rapport à l'année dernière, mais un petit peu, ça reste quand même c'est préoccupant. Mais
écoutez, on va évoquer d'abord la formation. Mm-hmm. Les universités ne sont pas capables d'accueillir suffisamment d'étudiants, donc on fait le système d'entonnoir, et donc mm-hmm. on décourage les étudiants à se présenter. Et puis, il y a aussi, finalement, en bout de course, une fois que vous êtes diplômé, vous vous dites, est-ce que je vais pouvoir m'installer? Est-ce que je vais avoir les moyens de le faire? Et puis, il y a aussi le mode de rémunération du pharmacien qui est à revoir, là aussi, parce que quand vous avez un professionnel de santé qui travaille comme les médecins à 60 heures par semaine, et qu'on regarde le système de rémunération qui est proposé, eh bien, ça décourage.
Pourtant, ça a changé quand même. Il y a des honoraires qui sont plus de la marge sur les médicaments.
Oui, Fabien, toujours plus avec moins. Toujours la même enveloppe. D'accord. Et toujours plus de travail. Donc le pharmacien n'a pas le temps en fait de mettre en place tous ses services et de pas le temps de développer les honoraires. Donc il faut revoir le mode. Je dirais aussi que la profession doit aussi réviser peut-être l'accueil des jeunes. On accueille les jeunes en leur proposant des fonds de commerce à 100% du chiffre d'affaires, 80% du chiffre d'affaires. Je pense que comme dans d'autres pays, on devrait peut-être réguler la vente des officines, mais bon, ça c'est un autre sujet, c'est un sujet
qui a toujours été régulé. Quand même, là.
Non, aujourd'hui c'est l'offre et la demande. Donc un bel emplacement peut être vendu 100% du chiffre d'affaires, alors qu'un emplacement un peu plus discret va être vendu à 60 ou 40%. Et on a des difficultés à trouver des moyens ou des finances pour accueillir ces jeunes.
Alors justement, autre problème qui risque un peu de bouleverser votre profession, c'est la financiarisation éventuelle de votre profession.
Et oui, tout à
on
fait.
On l'a vu avec la biologie.
On l'a vu avec la biologie, ça a créé de véritables déserts biologiques. Hein, et concentration, réduction du nombre de laboratoires d'analyse. Et donc aujourd'hui, il y a seulement 17% du territoire français touché par la désertification. Je pense qu'on va se réveiller quand on atteindra les 30%. Mais et ça veut dire quoi? Ça veut dire retard au diagnostic, absence de diagnostic. Et ça veut dire véritable problème de santé dans le futur.
Pour revenir à la financiarisation, vous dites que le pharmacien doit rester maître de sa pharmacie?
Le pharmacien doit rester maître dans sa pharmacie. Ça, c'est prévu dans les textes, dans le code de déontologie. Mais vous avez des fonds qui contournent un petit peu la loi en s'introduisant à travers des groupements et des réseaux de pharmacies pour financer les pharmaciens et quelque part rendre le pharmacien prisonnier d'un certain mode d'exercice. Et là, c'est un véritable danger parce que là, on va faire comme pour les labos, on va peut-être prendre en charge certaines pathologies dans certaines pharmacies, mais pas d'autres parce qu'elles ne rapportent pas.
Alors, on sait depuis des lustres, hein, vous sondez l'innovation, vous êtes obsédé par cette innovation pour la mettre au service des patients. Non. Alors, qu'est-ce que vous proposez avec Acte Pharmacie?
Écoutez,
de plus que les autres.
Écoutez, avec Acte Pharmacie, mon focus, c'est la prévention et la prise en charge des soins non programmés. Vous savez, on rentre en pharmacie à peu près 100, en moyenne, c'est 150 personnes qui rentrent en pharmacie par jour. C'est la moyenne. Vous avez une pharmacie à 7-8 minutes de chaque Français pour l'instant, puisque le maillage est entretenu par le pharmacien. Maintenant, on va rentrer pour un conseil. J'entends même parler demain de prescription pour le pharmacien. Moi, j'aimerais que la prescription, elle soit préétablie, en tous les cas, avec... Par exemple...
Que le pharmacien soit formé.
Le pharmacien soit formé, accompagné. Oui. Nous avons décidé, justement, nous, d'installer dans nos pharmacies un logiciel et de l'intelligence artificielle pour permettre au pharmacien d'être sûr de son diagnostic, de pouvoir orienter le patient soit vers les urgences, soit vers un
médecin. Le logiciel qui s'appelle Medvir.
Le logiciel s'appelle Medvir. Il a été monté par des urgentistes français. Et ce logiciel, aujourd'hui, on l'a essayé dans plusieurs pharmacies. Maintenant, nous allons le divulguer sur l'ensemble de nos réseaux, de notre réseau.
C'est vrai que quand quelqu'un vient pour une infection urinaire, ça peut être autre chose qu'une infection urinaire.
Et oui, tout à fait. On va nous autoriser à prescrire un antibiotique pour les infections urinaires, mais derrière l'infection urinaire, est-ce qu'elle est répétitive? Est-ce que se cache pas un cancer de la vessie? Il y a tout un tas de questions qu'on doit se poser et le pharmacien doit être aidé pour se faire.
Et vous proposez aussi de mieux acheter pour éviter la pénurie de médicaments.
Bien sûr, les défis, les rupture défis de stock, du pharmacien aujourd'hui, c'est ça, c'est la rupture, c'est le manque de personnel, rupture, manque de personnel, et prendre en charge la prévention et prendre en charge les patients chroniques. Et un groupement, justement, c'est fait d'abord et avant tout pour que l'économie de l'officine se porte mieux. Donc, pour mieux acheter. Et pour diversifier les sources d'approvisionnement de manière à éviter les ruptures.
Alors, en fait, vous voudriez être un petit peu aiguilleur, donc pour désengorger peut-être aussi les urgences, pour finir.
L'objectif très clair, lorsque je dis que le pharmacien doit être en amont du système de santé pour la prise en charge des soins non programmés, c'est justement permettre à ce pharmacien de désengorger les urgences, permettre à la pharmacie française de désengorger les urgences.
Merci Lucien Ménat. Juste un petit mot, je vais inviter juste après vous Alix Bournon qui propose de distribuer un livre dans les pharmacies. C'est une première.
Excellente idée et je sais que c'est sur le diabète. Oui. Et nous qui mettons des diététiciennes en pharmacie, je pense que mes diététiciennes vont être le premier promoteur de ce livre.
Merci beaucoup Lucien Ménat. On va à présent accueillir Alix Bournon et son nouveau livre 52 plaisirs de recettes sucrées à bas index glycémique.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Alix Bournon, bonjour.
Bonjour.
Alors, ravi de vous revoir. On ne s'était pas vu dans l'émission depuis 4 ans. C'est bien
tout
ça
fait.
C'était pour la sortie de votre livre Les Belles Envies. Vous le dites, vous avez diagnostiqué un diabète insulino-dépendant à l'âge de 12-13 ans. Et vous êtes depuis sous insuline. Tout d'abord, comment allez-vous?
Très bien.
Ouais. Fabuleux. C'est-à-dire le contraire, m'eût étonné. Hein. Donc vous êtes chef pâtissière, vous avez créé deux pâtisseries dans Paris, c'est bien ça ?
Tout à fait, deux pâtisseries dans le 17e et dans le 5e arrondissement de Paris.
Qui s'appelle comme le titre de votre bouquin Les Belles Envies ?
Tout à fait.
Et donc ces pâtisseries, donc on a dit dans le 17e et dans le 5e, hein, c'est bien ça ? Donc elles proposent quoi ? Elles proposent
des pâtisseries et des sucreries, des pâtisseries à index glycémique bas, qui font peu monter la glycémie quand on est diabétique. Prendre moins de poids quand on n'est pas diabétique, qui sont meilleurs pour la santé, avec aucun sucre raffiné. Voilà.
Mais finalement, c'est pas très... évidemment, elles sont destinées aux diabétiques, mais pas seulement.
À tout le monde, tout à fait. Bon, on se sent plus léger, c'est mieux de manger toujours avec le côté sucré, mais pas des sucres qui font stocker, qui font vraiment monter cette glycémie.
Pas de glucose, quoi.
Exactement.
Alors, vous, peut-être qu'il va y en avoir d'autres de pâtisseries ? Pas.
Certainement, oui.
En France, voire à l'étranger.
Oui, peut-être à l'étranger, oui, certainement. Ouais. Ouais,
c'est un pour l'instant, ça reste confidentiel.
Ça reste confidentiel, mais ça ne saurait peut-être tarder, oui.
Tant mieux. Alors, vous sortez aujourd'hui un livre de recettes, et c'est une première, quand même.
Évidemment.
Vous le distribuez dans les pharmacies.
C'est ça.
Comment avez-vous eu cette idée géniale?
Alors, je trouvais que l'idée était originale, parce que quand j'ai créé mes boutiques... ma vision, c'était plutôt de cibler à peu près tout le monde, comme vous l'avez dit, pas que les diabétiques. Manger, se faire plaisir, tout le monde aime manger, se faire plaisir, mais avoir le côté, donc ça touche vraiment tout le monde. Et j'ai voulu, par le biais de ce livre, aller donc dans les pharmacies, toucher au cœur des diabétiques, puisque nous, on se rend dans les pharmacies minimum une fois par mois pour se procurer soit les médicaments, soit l'insuline, et donc d'avoir ce livre qui soit un peu en tête de gondole. Et où vous avez des recettes à index glycémique bas, toujours le même concept, et qui soient vendues donc justement très prescripteurs auprès des pharmacies.
Donc vous avez fait des deals avec les groupements de pharmacie, les réseaux de pharmaciens, oui.
Et le deal est parti comment ? C'est que j'ai travaillé avec une société qui s'appelle ProPharma, qui a une application qui s'appelle MyEspace Diabète. Et dans cette MyEspace Diabète, c'est un petit peu le pass sanitaire de l'époque, donc le pass sanitaire de diabétique. Et dedans, il y avait des recettes pour les personnes notamment diabétiques.
Il existe toujours.
Il existe toujours. My Espace Diabète.
My Espace Diabète. D'accord. Ouais.
Donc, c'est une petite application que vous avez. Vous avez des conseils de trucs de pharmacien. Voilà, vous avez votre ordonnance qui est dedans. Donc, si vous avez perdu votre ordonnance, vous pouvez la retrouver dans cette appli. Enfin, c'est top. Ouais. Et ils m'ont contacté. Ils m'ont demandé si je voulais faire des recettes et que je trouvais que l'idée était très bonne de donner les tips qu'on appelle pour faire moins monter la glycémie sans être forcément au régime, mais vraiment toujours dans le côté gourmand à se faire plaisir. Et je suis partie, j'ai fait une recette par semaine. Et de l'idée est née
les 52 recettes.
Voilà.
Peut-être sauf au mois de mai qui est complètement chômé, non ? Il y a quand même des recettes.
Il y en a quand même.
Alors, c'est donc, vous prenez votre livre pour un médicament, quoi ?
Ouais, un petit peu.
Ouais.
Ouais.
Il va être remboursé bientôt ou pas ?
Ça aurait été une brillante idée, ouais.
On va en parler à l'assurance maladie. On va en parler.
On vous écoute, ouais.
Alors, juste deux mots sur l'indice glycémique, en fait. Mm-hmm. L'indice glycémique, c'est quoi ? C'est ce qui va déterminer
Alors, l'indice glycémique,
la toxicité d'un aliment ?
C'est la vitesse d'absorption du sucre dans le sang. Mm-hmm. Donc, c'est quand vous mangez un aliment qui contient un sucre, un glucide, donc n'importe quel, le sucre du fruit, le sucre du lait, le sucre d'un sucre, il a une montée de glycémie qui est plus ou moins élevée. Ouais. Et plus ça monte vite, moins c'est bon pour la santé, plus vous sécrétez d'insuline, ou vous en sécrétez pas comme moi, mais plus vous en injectez. Mmh. Et l'insuline, c'est une hormone de stockage qui est pas forcément très top pour le corps.
D'ailleurs, on le voit pour la cuisson des pâtes. Les pâtes dentées, elles ont un index de glycémique beaucoup plus bas.
Tout à fait.
Donc là, vous êtes en pharmacie. Enfin, même si vous êtes en pharmacie, ça, j'imagine que les non-diabétiques vont l'acheter.
Absolument. Et on va être distribué. On est déjà distribué, je crois, sur Amazon et d'autres plateformes, Rakuten. Enfin, je ne me souviens plus. Mm-hmm. C'est pas moi qui m'occupe de la diffusion. Mais en tout cas, on est diffusé pas que dans les pharmacies. Mais l'originalité, c'était vraiment de pouvoir les trouver dans les pharmacies et que ce soit proposé, que les pharmaciens proposent le livre. Mm-hmm. Voilà.
D'accord, donc quand on dit index base index glycémique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sucre, non.
Mais
sauf que vous utilisez sucres différents.
Absolument, et on travaille
sur les
temps de cuisson. Alors, très communément maintenant, avant on le trouvait peu, mais maintenant on le trouve bien, c'est le sucre de coco, les farines, alors on utilise du gluten qui sont présentes dans les farines, on n'en rajoute pas, comme beaucoup de pâtissiers peuvent rajouter du gluten, on n'en rajoute pas.
Il y a très peu de gens intolérants au gluten quand même.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a très peu de gens, mais il y en a. C'est une
infime pourcentage. C'est pas de chance d'être diabétique et intolérant au gluten quand même.
Mais c'est vrai que ce serait préjudiciable. Et en fait, donc on utilise que des sucres qui ne font pas monter. Alors, sucre, comme on disait, on a sucre de mélasse, on a sucre de coco, beaucoup on l'utilise, des sucres de bouleau, des sucres qui font vraiment peu monter la glycémie. On joue sur les temps de cuisson. Très important ce que vous disiez des pâtes. Sur le mélange des sucres ensemble, il y a des sucres qui ensemble font un cocktail Molotov et il y a des sucres qui ne le font pas du tout. Ça, c'est un peu de la chimie, c'est des tests, etc. Il faut toujours avoir ce côté sucré en bouche qu'on a toujours essayé de garder.
Et que disent alors, vous avez un retour des consommateurs ?
Qui trouvent, enfin, je sais pas, mais en tout cas, les boutiques fonctionnent bien.
Oui, bien sûr, vous plaidez pour votre magasin, mais...
Ça plaît de plus en plus. Donc, les gens sont toujours dans cette recherche de se faire plaisir, parce qu'on est toujours, dans le plaisir. On mange pas un gâteau par frustration, et je citerai pas de nom de marques qui font des gâteaux plus... c'est pour... plus frustré. Là, c'est vraiment de la gourmandise, mais en ayant un impact vraiment minime sur la glycémie, où nous, les petits diabétiques, avec nos capteurs, quand on mange le gâteau, au lieu d'avoir une montée comme ça, on a une petite, ce qui est obligatoire. Quand vous ingérez un glucide, vous avez forcément une petite, mais elle est vraiment infime. Et vous, pareil, vous sécrétez moins d'insuline, vous êtes moins fatigué, vous prenez moins de poids, donc tout est top, quoi.
Ouais. D'ailleurs, j'ai toujours dit que le plaisir, c'était un médicament.
Ouais, ça, c'est vrai.
Alors, vous travaillez aussi pour de grandes marques ?
Oui. J'ai travaillé, mais pour de grandes marques, au sein des belles.
J'imagine qu'il y a des marques qui sont intéressées par ce que vous faites, non ?
Oui, il y a des marques qui sont intéressées. Après, il y a beaucoup de personnes qui ont créé des boutiques comme moi, diabétiques comme moi, non, et mis bout à bout, non. Mais maintenant, il y a pas mal de produits aussi qui sont faits pour les personnes diabétiques. Après, est-ce que c'est bon ou moins bon ? C'est difficile quand même de vendre un produit santé. Comme je dis à tout le monde, c'est pour ça que j'ai voulu créer ce bouquin, pour essayer de cibler vraiment, même si, je répète, ça peut concerner tout le monde, mais là je cible vraiment les diabétiques. Pourquoi ? Parce que dans ce livre-là, pour m'appuyer sur le livre, j'ai vraiment mis les tips, ce que j'appelle les tips d'Alix. C'est vraiment ces petits conseils ou qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Alors vous, ça vous parlera peut-être moins, mais nous on le voit de cause à effet, dès qu'on utilise ce type dans telle et telle recette, et ben la glycémie elle monte beaucoup moins après. Donc pour les enfants c'est génial, vous pouvez pâtisser avec les enfants à la maison, enfin c'est
les sportifs qui
les sportifs
qui utilisent vos produits
beaucoup.
Non,
ah ouais, bah les sportifs c'est énorme. Avec les JO qui arrivent.
Bon, quand j'avais dit qu'on allait terminer en beauté, j'avais raison. Merci Alix Bourdon, merci pour ce que vous faites. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.